Chapitre 6. Notre victoire à la primaire démocrate de l'Iowa, avec 8 points d'écart, a fait la une dans tout le pays. Les médias l'ont qualifié de phénoménal et de séisme politique, et n'ont pas omis de faire remarquer que les résultats du scrutin étaient particulièrement dévastateurs pour Hillary, qui terminait en 3e position. Chris Dodd et Joe Biden se sont aussitôt retirés de la course. Les élus, qui étaient restés prudemment sur la réserve jusqu'à présent, se sont empressés de décrocher leur téléphone, prêts à nous soutenir. Les experts m'ont adoubé nouveau champion du camp démocrate et ils analysaient la participation record dans l'Iowa comme le signe probable d'un profond désir de changement à l'échelle de l'Amérique tout entière. Moi qui venais de passer 1 an dans la peau de David, voici que j'endossais les habits de Goliath. Et notre victoire avait beau me réjouir, je me sentais un peu gêné aux entournures dans ce nouveau costume. Au cours de ces 12 derniers mois, mon équipe et moi-même avions pris soin de ne jamais nous laisser aller à un excès d'optimisme ou de pessimisme, ignorant tout aussi bien l'effervescence initiale suscitée par ma candidature que les prophéties annonçant presque aussitôt l'imminence de son effondrement. 5 petites journées seulement séparaient les primaires de l'Iowa et du New Hampshire, et nous avons dû nous démener pour calmer les ardeurs. Axe pensait que les reportages exaltés et les images télévisées où l'on me voyait radieux devant des foules éperdues d'adoration, l'icône Obama, maugréait-il, seraient particulièrement contre-productifs dans un État comme le New Hampshire, où l'électorat, composé en grande partie d'indépendants qui se plaisaient souvent à attendre la dernière minute pour décider s'ils allaient voter à la primaire démocrate ou à la primaire républicaine, avait la réputation d'être plutôt anticonformiste. Mais enfin, il était tout de même assez difficile de ne pas se dire que nous avions désormais le volant bien en main. Nos organisateurs dans le New Hampshire étaient tout aussi tenaces que ceux de l'Iowa, et nos bénévoles tout aussi motivés. Nos meetings attiraient des foules enthousiastes qui, pour y assister, faisaient la queue jusque sur les aires de parking et autour du pâté de maison. Quand soudain, en l'espace de 48 heures, 2 rebondissements inattendus sont venus relancer la compétition. Le premier s'est produit durant l'unique débat organisé entre les 2 primaires, vers le milieu de la soirée, au moment où le modérateur a demandé à Hillary ce qu'elle ressentait quand les gens disaient qu'elle n'était pas sympathique. C'était typiquement le genre de question qui me mettait hors de moi, pour plusieurs raisons. C'était une question triviale, impossible. Que voulez-vous répondre à ça? Et c'était l'illustration parfaite d'un « deux poids, deux mesures » dont Hillary en particulier et les femmes politiques en général étaient victimes depuis toujours, dans la mesure où elles étaient sans cesse jugées à l'aune de leur charme, critères auxquels leurs homologues masculins n'étaient, semble-t-il, jamais soumis. Alors que Hillary s'en était très bien sortie, « Eh bien, ça me fait pas très plaisir », a-t-elle répondu en riant, « mais j'essaie de passer outre. J'ai décidé d'intervenir. »« Moi, je vous trouve tout à fait sympathique, Hillary », ai-je dit d'un ton neutre. Je pensais que le public aurait compris mon intention, tendre la main à mon adversaire en laissant transparaître tout le mépris que m'inspirait cette question. Mais, soit que je n'ai pas employé le ton approprié, soit que ma formulation ait été maladroite, soit encore que l'équipe de communication de la campagne Clinton ait monté la chose en épingle, ma phrase a été interprétée de travers. Tout le monde y a vu une remarque condescendante de ma part à l'égard de Hillary, sinon carrément désobligeante. Encore un commentaire machiste visant à humilier une rivale. Bref, le contraire exact de ce que j'avais voulu dire. Personne au sein de l'équipe n'a trop cherché à rectifier le tir, comprenant que toute tentative de clarification aurait pour seul effet d'attiser les braises. Mais à peine l'incendie avait-il commencé à s'éteindre de lui-même, que les médias se sont de nouveau affolés, à propos cette fois de l'image renvoyée par Hillary à la suite de sa rencontre avec un groupe d'électeurs indécis dans le New Hampshire, en grande majorité des femmes. Répondant à une question pleine d'empathie sur la façon dont elle gérait le stress de la compétition, elle avait été brièvement saisie par l'émotion en expliquant à quel point elle se sentait personnellement investie, avec quelle passion elle se battait pour ne pas voir son pays régresser, et avec quel dévouement elle avait consacré sa vie au service public en dépit des nombreux obstacles qui s'étaient dressés sur son chemin. Cette manifestation d'émotion, aussi sincère que rare chez Hillary, à l'opposé de la dureté et de la maîtrise permanente d'elle-même qu'on lui attribuait, a rendu les chroniqueurs complètement hystériques. Certains y voyaient un moment authentique et fascinant, la preuve que Hillary avait réussi à tisser un lien nouveau, plus humain avec le public. D'autres l'interprétaient comme une pure mise en scène ou comme un signe de faiblesse qui risquait de fragiliser sa candidature. Mais ce qui occupait réellement les esprits de manière sous-jacente, bien entendu, c'était que Hillary avait de grandes chances de devenir la première femme présidente des États-Unis. De sorte que sa candidature faisait remonter à la surface toutes sortes de stéréotypes sur les questions de genre, de même que la mienne faisait ressurgir toutes sortes de clichés sur les questions raciales, ainsi que sur l'apparence et le comportement que nous attendions de nos dirigeants. La frénésie médiatique autour de Hillary, avait-elle le vent en poupe ou du plomb dans l'aile, a continué jusqu'au jour du scrutin dans le New Hampshire. Mon équipe était rassurée par le fait que nous disposions d'une marge de sécurité confortable. Les sondages nous donnaient 10 points d'avance. Alors, quand nous avons constaté que le meeting que nous avions organisé à la mi-journée dans une petite université locale n'avait attiré qu'une foule clairsemée, quand mon discours a été interrompu par le malaise d'un étudiant et que les premiers secours ont mis un temps fou à intervenir, ça ne m'a pas paru de mauvais augure. Ce n'est qu'en toute fin de journée, après la fermeture des bureaux de vote, que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Michel et moi étions dans notre chambre d'hôtel, en train de nous préparer à fêter une victoire dont nous ne doutions pas, quand j'ai entendu frapper à la porte. Plouffe, Axe et Gibbs se tenaient dans le couloir, tout penauds, l'air de 3 ados qui viennent de planter la voiture de leur père contre un platane. « On va perdre », a dit Plouffe. Ils ont commencé à avancer plusieurs théories pour expliquer ce qui était allé de travers. Il était possible que les indépendants qui penchaient pour nous plutôt que pour Hillary aient décidé de ne pas participer à la primaire démocrate, mais d'aller voter en masse à la primaire républicaine afin de soutenir John McCain, se disant que nous avions la course bien en main. Les électrices indécises avaient peut-être basculé du côté de Hillary dans les tout derniers jours de la campagne. Ou alors c'était lié à notre absence de réactivité face aux attaques de l'équipe Clinton, qui avait diffusé des spots télé et rempli les boîtes aux lettres de messages à notre rencontre, sans que nous prenions la peine de dénoncer leur stratégie négative, permettant ainsi à leur coup d'atteindre leur cible. Toutes ces théories semblaient plausibles, mais à cet instant, le pourquoi importait peu. « Bon, eh bien, apparemment, emporter cette affaire va nous prendre un bout de temps », ai-je dit avec un petit sourire contrit. « Dans l'immédiat, occupons-nous de cautériser la plaie. » « Pas de regard de chien battu », leur ai-je recommandé. Notre attitude devait bien faire comprendre à tout le monde, la presse, les donateurs et surtout nos sympathisants, que ce genre de revers faisait partie du jeu. J'ai appelé les membres de notre équipe du New Hampshire pour leur dire à quel point j'étais fier du travail qu'ils avaient accompli. Puis je me suis demandé ce que j'allais bien pouvoir dire aux quelques 1700 personnes qui s'étaient rassemblées dans le gymnase d'une école de Nashua et attendaient le feu vert pour fêter la victoire. Heureusement, j'avais déjà travaillé avec Favs un peu plus tôt au cours de cette semaine pour débarrasser le discours de toute note triomphaliste, le priant de mettre plutôt l'accent sur le travail considérable qu'il nous restait à faire. Je l'ai alors appelé pour lui dire de ne pas changer une virgule au texte, sinon pour ajouter un coup de chapeau en passant à l'intention de Hillary. Le discours que j'ai prononcé ce soir-là devant nos supporters devait au bout du compte figurer parmi les plus importants de notre campagne. Pas seulement en tant que cri de ralliement adressé à tous ceux que notre défaite avait découragés, mais en tant que rappel salutaire des convictions qui nous animaient. « Nous savons que la bataille qui nous attend sera longue, ai-je dit. Mais souvenez-vous toujours que, quels que soient les obstacles auxquels vous vous heurtez, rien ne peut résister à la puissance d'un million de voix qui réclament le changement. » J'ai dit que nous vivions dans un pays qui, tout au long de son histoire, avait été presque entièrement bâti sur le terreau de l'espoir, par des gens, pionniers, abolitionnistes, suffragettes, immigrants, défenseurs des droits civiques, que les difficultés même les plus insurmontables en apparence n'avaient jamais découragés. Quand on nous a dit que nous n'étions pas prêts, ai-je poursuivi, ou que ce n'était même pas la peine d'essayer, ou que nous n'y arriverions jamais, des générations entières d'Américains ont répliqué en affirmant une conviction toute simple et qui résume à elle seule l'esprit de tout un peuple. Si nous y arriverons. Yes, we can. La foule a aussitôt repris cette phrase et s'est mise à la scander. On aurait cru entendre la pulsation d'un tambour. Et pour la première fois peut-être depuis qu'Axe avait suggéré d'en faire le slogan de ma campagne sénatoriale, j'ai ressenti une foi profonde dans la puissance de ces 3 mots. La couverture médiatique de notre défaite dans le New Hampshire a été, sans surprise, impitoyable. Le message en substance étant que l'ordre naturel des choses avait été rétabli. Hillary était de retour à la première place. Mais il s'est produit quelque chose de curieux au sein de notre campagne. Même si nous étions tous accablés d'avoir perdu, nous étions aussi plus unis que jamais et plus déterminés. Au lieu d'observer une décrue de nos effectifs, Nos bureaux partout dans le pays voyaient au contraire affluer spontanément de nouveaux bénévoles. Les contributions financières en ligne, émanant surtout de modestes donateurs, ont atteint un pic. John Kerry, qui n'avait pas encore pris parti, m'a apporté son soutien officiel avec enthousiasme. Janet Napolitano, gouverneur de l'Arizona, Claire McCaskill, sénatrice du Missouri, et Kathleen Sebelius, gouverneur du Kansas, toutes trois représentantes d'État qui penchaient du côté des Républicains, lui ont emboîté le pas, nous aidant ainsi à faire passer un message clair. Malgré le revers que nous venions d'essuyer, nous étions forts, nous continuions d'aller de l'avant et nos espoirs étaient intacts. Tout cela était gratifiant et me confortait dans mon intuition. Notre défaite dans le New Hampshire n'était pas aussi catastrophique que les observateurs semblaient le penser. Si l'Iowa avait prouvé que j'étais un concurrent sérieux et pas seulement un phénomène pittoresque dont la nouveauté aurait au fait s'éventer, mon couronnement hâtif avait été artificiel et prématuré. De ce point de vue, le bon peuple du New Hampshire m'avait rendu un fier service en mettant un coup de frein au processus. Il est normal que devenir président soit difficile, ai-je dit à un groupe de sympathisants le lendemain. Parce qu'être président est difficile. Le changement est difficile. Ce que nous voulions, nous allions devoir le mériter, et pour cela, nous remettre au travail. Et c'est ce que nous avons fait. Le caucus du Nevada s'est déroulé le 19 janvier, une semaine et demie à peine après celui du New Hampshire, et nous n'avons pas été surpris de nous incliner devant Hillary en termes de suffrages exprimés. Les sondages nous donnaient largement perdants dans cet état depuis un an. Cependant, dans les primaires présidentielles, ce n'est pas tant le nombre de voix individuelles que vous obtenez qui importe, mais le nombre de délégués à la convention, lequel est proportionné en vertu de diverses règles obscures propres à chaque État. Or, grâce à notre percée dans les régions rurales du Nevada, où nous avions fait campagne avec acharnement, Elko, une ville qui ressemblait à un décor de western avec son saloon et ses virevoltants, figure en bonne place au palmarès de mes États préférés, la répartition plus homogène des suffrages exprimés en notre faveur sur l'ensemble de l'État nous a valu de remporter 13 délégués contre 12 pour Hillary. Si improbable que cela paraisse, nous étions en mesure de revendiquer un match nul à l'issue de la course dans le Nevada et d'entamer la phase suivante de la campagne, la Caroline du Sud, suivie du mastodonte des primaires, le Super Tuesday et ses 22 États à la clé, avec au moins une petite chance de l'emporter. À en croire les déclarations des dirigeants de mon équipe par la suite, c'est grâce à mon optimisme qu'ils ont pu surmonter notre défaite dans le New Hampshire. Je ne sais pas si c'est tout à fait exact, dans la mesure où mon staff et mes partisans ont fait preuve d'une capacité de rebond admirable et d'une détermination sans faille du début à la fin de la campagne, indépendamment de ma propre attitude. Tout au plus leur ai-je retourné le compliment, après tout ce qu'ils avaient fait pour m'aider à franchir en tête la ligne d'arrivée dans l'Iowa. Ce qui est sans doute vrai, c'est que le New Hampshire a dévoilé à mon équipe et à mes sympathisants une qualité que je me connaissais déjà et qui s'est révélée utile non seulement pendant la campagne, mais tout au long des 8 années qui allaient suivre. C'est dans les moments les plus critiques que je me sentais le plus sûr de moi. L'Iowa nous avait peut-être convaincus que j'avais des chances d'être élu président, mais c'est la défaite dans le New Hampshire qui nous a confortés dans l'idée que je serais à la hauteur de la tâche. On m'a souvent interrogé sur ce trait de ma personnalité, ma capacité à demeurer inébranlable au milieu d'une crise. Parfois, je réponds que c'est une simple question de tempérament, ou que c'est parce que j'ai grandi à Hawaï, sachant qu'il est assez difficile d'être dévoré par le stress quand il fait 27 degrés, que le soleil brille et que vous êtes à 5 minutes de la plage. Mais lorsque je m'adresse à un groupe de jeunes gens, j'ai plutôt tendance à leur dire que j'ai appris, au fil du temps, à voir les choses avec un certain recul, que le plus important et de rester concentré sur ses objectifs plutôt que de se laisser déstabiliser par les vicissitudes du quotidien. Il y a du vrai dans chacune de ces réponses, mais il y a un autre facteur qui entre en jeu. Quand je me retrouve dans une situation délicate, je m'en remets souvent à ma grand-mère. Elle avait alors 85 ans, et des trois personnes qui m'avaient élevé, c'était la dernière encore en vie. Sa santé déclinait. Le cancer s'était attaqué à un corps déjà ravagé par l'ostéoporose et une vie entière de mauvaises habitudes. Mais son esprit était toujours aussi affûté, et comme elle ne pouvait plus prendre l'avion et que j'avais dû renoncer à nos traditionnelles vacances de Noël à Hawaï pour me plier aux exigences de la campagne, je l'appelais régulièrement au téléphone, juste pour prendre de ses nouvelles. Et je l'ai appelée à ce moment-là, après le New Hampshire. Comme d'habitude, la conversation n'a pas duré très longtemps. Toutes trouvaient que les appels longue distance étaient une extravagance. Elle me donnait quelques nouvelles des îles et moi de ses arrière-petites filles dont je lui rapportais les dernières bêtises. Ma sœur Maya, qui vivait à Hawaï, m'a raconté que toutes suivaient tous les épisodes de la campagne à la télé, jusque dans ses moindres rebondissements, mais elle ne m'en parlait jamais. Au lendemain de ma défaite, elle n'avait qu'un seul conseil à me donner. « Il faut que tu manges, Bear. Tu es trop maigre. » Réplique typique de Madeline Payne Dunham, née dans la petite ville de Pérou au Kansas en 1922. C'était une enfant de la Grande Dépression, fille d'une maîtresse d'école et d'un comptable dans une petite raffinerie de pétrole, eux-mêmes enfants de fermiers et d'exploitants agricoles. C'était des gens simples et honnêtes, qui travaillaient dur, allaient à l'église, payaient leurs factures et n'avaient guère de goût pour l'hyperbole, les grandes démonstrations d'affection ou l'excentricité sous quelque forme que ce soit. Dans sa jeunesse, ma grand-mère s'était rebiffée contre les mœurs corsetées propres à ce genre de petite ville, notamment en épousant mon grand-père, Stanley Armour Dunham, qui possédait toutes les qualités douteuses susmentionnées. Ensemble, ils avaient connu une vie pleine d'aventures, pendant et après la guerre. Mais au moment de ma naissance, il ne restait plus de cette veine rebelle chez toutes que son penchant coupable pour le tabac, la boisson et les thrillers inspirés de faits réels les plus sordides. Entrée à la Bank of Hawaii comme simple employée de bureau, elle avait réussi à gravir les échelons jusqu'à devenir la première femme dans toute l'histoire de la banque nommée à un poste de direction. Et de l'avis unanime de ses collègues, elle y faisait un travail remarquable. Pendant 25 ans, pas un esclandre, pas une erreur et pas une seule plainte, même quand elle voyait des hommes plus jeunes qu'elle et qu'elle avait elle-même formés, être promus et lui passer devant dans la hiérarchie. Du jour où tout avait pris sa retraite, il m'était arrivé de croiser des gens à Hawaï qui me racontaient comment elle les avait aidés, un tel jurant que son entreprise aurait fait faillite sans son intervention, tel autre se souvenant que tout avait passé outre je ne sais quelle clause obscure en vertu de laquelle elle ne pouvait pas contracter d'emprunt sans la signature de son mari, dont elle était séparée, et lui avait ainsi permis de monter son projet d'agence immobilière. Mais quand on interrogeait tout à ce sujet, elle affirmait qu'elle n'était entrée dans la banque ni par passion pour la finance, ni par désir d'aider les autres, mais parce que notre famille avait besoin d'argent et que c'était ce métier-là qui s'était présenté à elle. « Parfois, me disait-elle, on fait ce qu'il faut faire, c'est tout. » Ce n'est qu'à l'adolescence que j'ai compris à quel point la vie de ma grand-mère avait dévié de la trajectoire qu'elle avait envisagée dans sa jeunesse. À quel sacrifice elle avait consenti, d'abord pour son mari, puis pour sa fille, puis pour ses petits-enfants. Il y avait à mes yeux quelque chose de discrètement tragique à l'avoir cantonnée à un univers aussi étriqué. Et pourtant, déjà à cette époque, il ne m'échappait pas que c'était grâce à l'opiniâtreté de toutes, qui avait toute sa vie durant poussé son rocher sans jamais se décourager, se réveiller tous les matins avant le lever du soleil pour enfiler son tailleur, chausser ses talons et prendre le bus pour rejoindre son bureau en centre-ville, travailler toute la journée sur ses dossiers de dépôt fiduciaire puis rentrer le soir chez elle trop fatiguée pour faire quoi que ce soit, que Gramps et elle avaient pu profiter d'une retraite confortable, continuer de voyager et conserver leur indépendance. La stabilité qu'elle leur avait procurée avait permis à ma mère de poursuivre la carrière de son choix, en dépit de ses revenus aléatoires et de ses missions à l'étranger, et à Maya et moi de fréquenter une école privée et des universités prestigieuses. Tout m'avait appris à tenir mes comptes et à éviter les dépenses inutiles. C'était grâce à elle, même dans les périodes les plus révolutionnaires de ma jeunesse, que j'étais susceptible d'éprouver de l'admiration pour une entreprise bien gérée, grâce à elle que j'étais capable de lire les pages financières du journal, et grâce à elle que j'étais enclin à me méfier des déclarations grandiloquentes prônant le renversement de l'ordre établi et la refondation de toute pièce de la société. Elle m'avait enseigné la valeur du travail et de l'effort, même face au labeur le plus rebutant, et le sens des responsabilités, même quand celles-ci étaient contraignantes. Elle m'avait appris à concilier passion et raison, à ne jamais me laisser emporter quand tout allait bien, ni me laisser abattre quand tout allait mal. Tout cela, je le tenais d'une vieille dame blanche du Kansas, pleine de bon sens et d'honnêteté. C'était son point de vue qui me venait souvent à l'esprit quand je faisais campagne. Et c'était sa vision du monde que je retrouvais chez bon nombre des électeurs que je croisais sur ma route, que ce soit au fin fond de l'Iowa ou dans un quartier noir de Chicago. La même fierté discrète à l'égard des sacrifices consentis pour les enfants et les petits-enfants. La même absence d'affectation, la même modestie dans l'espérance. Et, dans la mesure où toutes possédaient à la fois les qualités admirables et les défauts tenaces de son éducation, dans la mesure où elle m'aimait avec une telle férocité qu'elle aurait été littéralement prête à tout pour m'aider, mais où elle n'avait par ailleurs jamais réussi à se débarrasser du conservatisme prudent qui lui avait brisé le cœur en silence le soir où ma mère avait invité mon père, un noir, à venir dîner à la maison pour la première fois, elle m'avait également montré la réalité complexe et bigarrée de la question raciale dans notre pays.